Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, la radio RMC Story, canal 23 de la TNT. C'est jour férié, c'est la Pentecôte, mais nous sommes tous là aujourd'hui pour ces 3 heures de direct, de midi à 15h comme chaque jour. Et aujourd'hui, autour de la table, on retrouve notamment Rémi Barré. Salut Rémi.
Salut Estelle et bonjour à tous.
Rémi qui va se faire un plaisir de lire tous vos messages sur l'appli RMC, rubrique Direct Studio. Il est en train d'arriver justement dans le studio, c'est Perico Légas. Venez vous asseoir Perico, vous savez que voilà, nous avons une table. Des chaises, c'est comme ça depuis deux ans.
De comme ça, j'aurais passé
ça va, Perico Légas. Vous avez passé un bon week-end ?
Il y a un week-end, ce week-end.
Il y a week-end samedi et dimanche. Je veux dire, comme.
Ah voilà.
C'est formidable. Vous savez, comme on fait de la radio, ce qui serait bien, c'est de parler dans votre micro. Enfin bon, voilà. Écoutez, c'est comme ça. Face à vous, il y a la militante écologiste et associative Loumire Lapresse. Salut Loumire.
Salut Estelle, bonjour à toutes et à tous.
Avec ce très beau t-shirt féministe. Et puis un petit nouveau dans la bande, on est ravis de l'accueillir, un peu de jeunesse aussi sur ce plateau. C'est Valran Moulin. Et Berthaud, entrepreneur fondateur de Crayon, un média dédié aux 16-34 ans. Ça va Valran ?
Bonjour Estelle, bonjour à tout le monde.
Dans les 46, je peux regarder quand même ou...
Bien sûr, évidemment. Bah, on reçoit plein de gens que vous recevez également, mais c'est juste, on va dire, à des citations des jeunes parce que sur les réseaux sociaux et parce qu'avec beaucoup de représentants.
Parce que nous, les vieux, on peut pas, quoi.
Vous avez Facebook ?
Non, je n'ai pas Facebook. Non, mais écoutez, ne dites pas ça.
Non, mais Estelle Midi sur Instagram. J'ai tagué Estelle Midi sur Instagram. Mais il y a.
Merci Valran.
La transition numérique est là.
En tout cas, bienvenue dans Estelle Midi. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, Elisabeth Borne qui qualifie le Rassemblement National de parti héritier de Pétain. La première ministre est allée trop loin. On attend vos avis, vos réactions au 32-16. À midi et demi, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui veut distribuer 5 millions de flyers pour sensibiliser aux violences faites aux femmes. Est-ce ridicule ou salutaire ? À 13h, le ministre de la Santé, François Braun, qui ouvre la porte au remboursement de la cigarette électronique. Bonne ou mauvaise idée ? 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. Et puis à 14h, une cousinade géante qui a rassemblé 824 membres d'une même famille dans le Nord ce week-end. Alors pour vous, les réunions de famille, justement, c'est l'enfer ou le paradis ? On attend tous vos témoignages, vos réactions au 32-16 et sur l'appli RMC.
RMC, Estelle Midi.
Midi 6 sur RMC, on démarre Estelle Midi avec l'actualité du jour et c'est Elisabeth Borne, la première ministre, qui a déclenché une polémique en déclarant hier que le Rassemblement National était l'héritier de Pétain. Dans le même temps, Elisabeth Borne a aussi accusé la France Insoumise de faire le jeu de l'extrême droite. Elle était l'invitée de Radio J hier, écoutez.
Et moi, je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement National. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement National y met les formes. Mmh. Mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse.
Héritier de Pétain ?
Oui, également héritier de Pétain.
Absolument. Marine Le Pen, pareil ?
Je pense que je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti. Et je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées et les racines.
Vous demandez de les dénoncer officiellement ?
Ben, je pense que ça serait une bonne chose.
Rémi Barré, c'est peu de dire que cette interview n'a pas été du tout du goût des dirigeants du RN.
Marine Le Pen, à commencer par elle, parle d'une dénonciation calomnieuse, indigne d'une première ministre, alors que Sébastien Chenu, lui, évoque l'inculture de ce gouvernement et de sa chef d'abord.
Pourtant, avec nous dans quelques minutes.
Ouais, pourtant, les fondateurs du Front National en 1972 étaient, c'est vrai, pour un certain nombre d'entre eux, héritiers, voire anciens membres du régime de Vichy. C'est le cas, par exemple, de François Brignon, de l'ancien Waffen-SS Pierre Bousquet, de Léon Gauthier, de Victor Barthélémy, parmi d'autres. Victor Barthélémy, qui d'ailleurs était membre dirigeant du Parti populaire français de Jacques Doriot, qui, sur ordre de René Bousquet, a arrêté plus de 13 000 Français juifs en juillet 1942. C'est la fameuse rafle du Veldiv. Pétain, encore, qui vaudra pour Jean-Marie Le Pen d'être exclu du RN en 2015, on s'en souvient peut-être pas, mais à l'époque, il était encore président d'honneur du RN, à l'époque, dans le journal Rivarol, Jean-Marie Le Pen avait écrit « Je n'ai jamais considéré le maréchal Pétain comme un traître, on a été très sévère avec lui à la Libération, et je n'ai jamais considéré comme de mauvais Français ou des gens infréquentables ceux qui ont conservé de l'estime pour le maréchal ». Marine Le Pen, c'est sûr que c'est un héritage assez lourd à porter.
Alors, Elisabeth Borne, la première ministre, est-elle allée trop loin en disant que le RN était l'héritier de Pétain, Valran ?
Je suis toujours très mal à l'aise avec les procès d'intention. C'est-à-dire qu'au final, j'ai toujours l'impression que c'est pour détourner de ce que veut vraiment proposer le RN avec lequel on soit d'accord ou pas. Je trouve ça un peu gênant, en fait, ce genre d'intervention, parce qu'on a l'impression que c'est toujours renvoyé à autre chose que la politique, très concrètement. J'ai l'impression que les Français sont pas vraiment intéressés par ça. À titre perso, je suis pas vraiment intéressé par ça. Il y a évidemment des histoires, et assez funestes pour celles du FN que vous venez de citer à l'instant. En revanche, pour moi,
c'est quand même important de rappeler l'historique d'un parti.
C'est complètement, c'est évidemment important de le faire, mais ça me paraît important aussi, surtout, de parler de ce que veulent les Français, en fait, de parler de social, de parler d'environnement, de parler, on va ça le sujet tout à l'heure, mais de la protection des femmes. Et j'ai l'impression que ça, c'est juste une espèce de petite guéguerre politique qui intéresse les politiciens entre eux, mais qui intéresse assez peu les Français du quotidien. Qui, oui, bien sûr, il faut le rappeler.
Bah nous, ça nous intéresse, oui, parce qu'on a ouvert l'émission avec ça.
Mais non, mais c'est ultra. Non, mais le sujet politique est super intéressant. Le sujet du RN en tant que parti, on va dire, collabo, je trouve que c'est un peu anachronique, même si là, il y a des réalités historiques derrière. J'ai l'impression que c'est surtout un procès du RN en tant que parti d'opposition qui est fait là, et que c'est surtout sur ces mesures-là qu'on devrait les contester.
Alors, vous êtes rarement d'accord avec le gouvernement Lumière Laprès. Est-ce que là, vous trouvez des points d'accord avec Elisabeth Borne?
Bah oui, tout simplement parce que c'est pas une opinion, c'est des faits. Donc ça, je pense que c'est aussi important qu'on puisse collectivement, même quand on n'est pas d'accord sur l'orientation politique, se mettre d'accord sur des faits. Comme Rémi l'a rappelé, le RN a été créé par des nazis.
C'est parce qu'il a dit...
Pierre Bousquet, trésorier du Front National quand à la création en 72, est quand même un gars qui s'est engagé volontairement dans l'armée d'Hitler. Il faut le rappeler quand même. Et surtout, c'est un héritage qui est... toujours vivant, parce que aujourd'hui, il y a des gens, notamment dans le service d'ordre du RN, et dans les proches de Marine Le Pen, dans son équipe, en assistant parlementaire, ce genre de choses, qui font partie de mouvances néo-nazies, le GUD, par exemple. Et donc, en fait, c'est pas du tout un héritage avec lequel elle a rompu. C'est complètement quelque chose qui est
elles sont les détachées quand même par rapport à son père.
Oui, mais ils dans le discours.
Oui, bien sûr.
Dans le discours,
problème, c'est ce
ça.
Que dit Lumière, c'est que y a un certain nombre de elles sont détachées.
Rémi Barré.
Dans la parole, notamment on parle des ex du GUD, mais malgré tout, ils sont toujours autour. Là, oui. On a vu il y a pas longtemps, il y a une polémique parce que deux membres ex-membres du GUD qui ont aujourd'hui une quarantaine d'années, ont créé une société de communication qui fait la communication.
Exactement.
Du RN, donc d'accord. Officiellement, ils font plus partie du GUD. Quand on
oui,
a posé la question, ils sont toujours autour.
Dans le discours, oui, mais dans les faits, ces personnes sont toujours là et donc leur importance est capitale au sein du RN. Et ce que je pense qui est vraiment important, c'est de le rappeler parce que le RN ment. Sébastien Chenu, quand il nous dit, mais c'est quand même lunaire, quand il nous dit, c'est pas vrai, le Front National, on a nos racines qui datent de la résistance. Il parle pas du même Front National, il parle d'un organe de résistance créé par des communistes. Donc en fait, ça n'a absolument rien à voir, ça a le même nom, mais c'est pas les mêmes gens. Donc en fait, faut arrêter de mentir et de prendre les gens pour des cons. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est important de rappeler les faits. Alors après, et ça j'aimerais bien en discuter avec toi Perico, est-ce que c'est stratégique?
Je vais lui poser la question.
Je sais bien, mais est-ce que c'est stratégique ou non de le rappeler à ce moment-là? Je ne sais pas.
Alors justement, Perico, c'est une erreur ou c'est un coup de com'? Finalement, ce qu'a fait Elisabeth Borne hier, parce que ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe, finalement.
La situation de la France et le débat républicain méritent mieux que d'aller sortir les vieilleries de l'histoire où personne n'a rien à gagner. Il n'y a aucune concession à faire au pétélisme. C'était une collaboration totale, vendue aux Allemands, déportation des Juifs. La police de Vichy est allée au-delà de ce que les Allemands demandaient. Le problème, c'est que le maréchal Pétain a été investi le 10 juillet 1940 avec les pleins pouvoirs par la chambre du Front Populaire, où il y avait des gens de gauche. Le Parti communiste pouvait pas siéger. Il s'était jeté dans les bras d'Hitler par le pacte germano-soviétique d'août 1939. Donc ils n'étaient pas là. Il y a 80 députés qui se sont opposés sur 500, sur 650, dont Léon Blum et quelques socialistes. Mais la chambre du Front Populaire a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. En 1945, 17, je dis bien 17 des ministres socialistes qui avaient participé au gouvernement Front Populaire ont été exclus du PS pour fait de collaboration. Il y avait deux ministres socialistes dans le gouvernement de Pétain en juillet, en juin 40. Donc, arrêtons.
Ils ont fait le ménage, quand même.
Mais quant à la Francisque...
Ils ont fait le ménage. Tu peux pas soupçonner le PS aujourd'hui.
D'accord. Et Mitterrand a eu la Francisque.
Il va dire le Parti Socialiste, c'est l'héritier de Pétain.
Et Mitterrand a eu la Francisque et il recevait René Bousquet jusqu'à la veille de sa mort.
Bien sûr.
Et Mitterrand a défendu la théorie du glaive et du bouclier toute sa vie parce qu'il en a été, ce qui est un mensonge. Alors, le problème, puisqu'on va parler des faits, et je me suis penché, je viens de le découvrir avec stupéfaction.
Quoi ?
En préparant l'émission, J'ai 45 grands résistants dans l'équipe de fondation du Front National, dont un compagnon de la Libération, Michel Camaret, Jean-Charles Bloch, Nicole de Bois-Guilbert, Jacques Doré. Voilà, ils ont tous été.
Et ça, c'est à mettre au même plan ?
Non, mais qu'on dise pas que non. Alors, le Front National, il y a le Parti communiste. Ça s'appelait Front National pendant la révolution, pendant la Reims. Oui. Et il y avait des résistants qui ensuite, en 72, le Front National s'est pas créé en 44 ou en 42, c'est créé en 72. Il y avait dedans des anciens collaboranistes, des miliciens, de tout, et il y avait aussi des résistants.
Oui.
Donc, ne mélangeons pas les genres. Là,
et d'accord, donc c'est une erreur ou c'est un coup de com'?
C'est une erreur totale. Ce discours fait que Marine Le Pen sera peut-être présidente de la
République. C'est ce qu'elle dit, d'ailleurs, Elisabeth.
Voilà. Alors, continuons. Ceux qui n'aiment pas le Front National, qui continuent à dire Front National et jeter des anathèmes qui remontent à la guerre de collaboration. Donc, la gauche doit balayer devant sa porte. Elle a aucune leçon de morale politique à donner. Au Rassemblement National.
Moi, je suis pas d'accord avec toi.
Aucune.
Je suis pas d'accord avec toi parce
qu'ils étaient pas nés.
Non, alors, mais attends, aucun, je peux parler ou pas?
Attends, aucun des dirigeants actuels n'était né. Et je n'ai jamais entendu dans l'équipe actuelle dirigeant du Rassemblement National avec lequel je peux avoir d'immenses divergences. Jamais j'ai entendu d'élevage. Non. De dire que le régime de Pétain était formidable.
Pétain,
jamais.
Non, mais t'as parlé avec des gens du GUD récemment parce que les gens du GUD étaient des néo-nazis.
Alors, je vais vous dire. Je vais vous apporter une précision historique très claire. Vous connaissez tous José María Aznar, qui était président du gouvernement espagnol, adulé par toute l'Europe.
Oui.
Il était l'émanation du parti Alianza Popular, qui était le parti des anciens franquistes. Et José María Aznar a toujours refusé de considérer que le général Franco avait fait un coup d'État en 36. Et que c'était juste.
Mais c'est quoi?
C'est notre histoire.
D'accord. Alors, quand on va fouiller les poubelles, quand on grimpe au cocotier, il faut avoir le caleçon propre.
Quand t'es communiste, communistes ont eu le plus gros contingent de résistants dans la résistance française.
Après avoir collaboré, saboté l'armée française en 40.
Mais c'est quand même important, il y a quand même des néo-nazis aujourd'hui dans l'entourage de Marine Le Pen, et il n'y a pas de néo-nazis dans l'entourage d'autres partis français aujourd'hui. C'est important de le dire.
Valran Moulay-Berthaud.
Pour moi, il y a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est que c'est impossible pour le RN, s'ils veulent gagner, de se défaire de cet héritage du GUD, de cet héritage, on va dire, de la
pré-guerre.
Parce que, en fait, si jamais ils font ça, ils scient leur propre base électorale, et je pense
que les 23% de Français qui ont voté Front National au premier tour, à mon avis,
si les gens savaient,
s'il y a 1% qui a voté vraiment pour cette frange néo-nazie, on va dire, la plupart des gens, c'est parce que ils étaient séduits par
le pouvoir d'achat.
Le discours sur l'immigration.
C'est pour ça qu'il faut le dire, parce que les électeurs RN, et moi j'en connais plein, j'ai écrit un livre sur les gens qui votent pour le RN, donc c'est des amis, les gens ne savent pas. Ne savent pas ce que c'est que le GUD, ne savent pas qu'il y a des néo-nazis dans l'entourage de Marine Le Pen.
Je suis pas sûr.
Pour le coup, moi, je pense fortement qu'il y a énormément de difficultés pour eux de gérer ce sujet-là, parce qu'ils ont très peur de renier leur propre base qui les a amenés à la base en 2002 au second tour de la présidentielle, qui pour le coup était beaucoup moins. Oui, mais la réalité, c'est qu'il y a encore des gens qui sont derrière le RN pour ces raisons-là, et que cette base populaire qu'a créée Marine Le Pen depuis qu'elle a elle-même pris la tête du FN, puis qu'elle a rebaptisé en RN, qui a justement eu cette but de dédiabolisation, je pense qu'à ce moment-là, elle parle à un public et à un électorat beaucoup plus large. Et que cet électorat, là, je suis complètement d'accord avec toi, n'a aucune idée de cet héritage et de ce que ça implique.
Ça leur dit rien. Alain Madelin, Patrick Devedjian et Gérard Longuet étaient d'anciens militants d'extrême droite. Ils ont été d'excellents. Est-ce qu'on a le droit de changer dans ce pays? Est-ce qu'on a le droit de reconnaître ses erreurs? Voilà. Et là, donc, on continue à faire le procès en nazisme. Eh ben, continuez comme ça.
Mais quand il y a des néo-nazis actuels, moi, c'est ça, des gens de l'Action française.
C'est approuvé.
Dans la rue, il n'y a pas plus loin qu'il y a deux semaines.
Si c'est le cas, c'est dramatique.
Je voudrais qu'on prenne Patrick, qui nous a appelé au 3216. Patrick, qui nous appelle de Lyon. Bonjour, Patrick.
Oui, bonjour Estelle, bonjour toute l'équipe.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Patrick, elle a raison, la Première Ministre Elisabeth Borne, sur le RN, ou elle est allée trop loin pour vous?
Pour une fois qu'elle a raison, on va le mettre en valeur, quoi. En fait, quelque part, je suis triste. Je suis triste de notre démocratie, quoi. D'un côté, on a des gens qui s'assument pas. Et de l'autre côté, on a des gens qui essaient de pactiser avec. Et là, ça fonctionne pas, quoi.
Mais c'est-à-dire qui ne s'assume pas aujourd'hui?
Le RN. Faut déconner, quoi. Je sais pas, quoi.
Vous voulez qu'ils disent quoi, en fait?
Qu'ils disent ce qu'ils pensent. Tout simplement, arrêtez de nous parler de populisme, de... ouvrier, de salaire, de machin, de bidule, de truc. Non, non, non.
Bah, c'est ça qui marche aujourd'hui, Patrick.
Hein?
Aujourd'hui, c'est ça qui marche. Aujourd'hui, si Marine Le Pen était au deuxième tour, c'est à cause de son discours sur le pouvoir d'achat.
C'est pour ça que je suis triste. C'est pour ça que je suis triste, Estelle. C'est parce que, en fait.
Je pense que si elle avait dit vive Pétain, si vous voulez, elle aurait fait moins de voix, quoi. Bah, c'est mon avis.
C'est ton avis et c'est mon avis aussi, quoi. Le problème, c'est que voilà, on s'assume pas. Moi, je suis père de famille. J'ai 56 ans. J'ai vécu pas mal de choses. Et l'important pour moi, c'est d'assumer ce que je fais et ce que je dis. Et en fait, je me rends compte qu'au RN, au FN, tout ce qu'on veut, ils s'assument pas. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce qu'en fait, il y a une face cachée. Il y a une face cachée. Et cette face cachée, le jour où, malheureusement, si quelqu'un du RN, que ce soit Marine ou autre, arrive au pouvoir, que cette face cachée se révèle. Et que là, on se rend compte.
Après, ce qui est dur pour Marine Le Pen, entre guillemets, c'est-à-dire que si le fondateur du RN n'avait pas été son père, ce serait plus simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand même son père qui a fondé le
FN. Son père, il avait 17 ans, il essaie de s'engager dans le FFI. Et le colonel Vallin lui dit, t'es trop jeune, il ne peut pas. Jean-Marie Le Pen, quand il avait 17 ans, a essayé de s'engager dans le FFI.
Mais ce que je pense,
ce que je veux dire, c'est que.
Mais tu dis, s'il y a mieux.
Si t'avais pas Jean-Marie Le Pen au-dessus et qui est toujours en vie, il est plus proche de la fin que du début, mais je veux dire, ce serait plus simple de dénoncer. Tu vois ce que je veux dire?
Le Front National était un parti d'extrême droite en 72 sur les valeurs d'extrême droite.
Ça, personne ne le dit.
Est-ce que l'évolution de la société et des mentalités fait qu'une nouvelle génération peut ne pas être taxée de pétiniste et de nazisme?
Mais après, c'est
Marine Le Pen. En tout cas, les Français, eux, considèrent qu'ils sont ni pétinistes ni nazis.
C'est là,
Ou alors 42% des Français voteraient pour un parti ouvertement pétiniste et nazi qui se cache.
Non, mais pourquoi Marine Le Pen ne le dénonce pas? Pourquoi elle ne fait pas le ménage? Pourquoi il y a encore des membres du GUD qui sont dans le service de sécurité ou à la com, comme disait Rémi?
Parce que c'est des gens qui sont plus du GUD et qui ont rompu avec ça, peut-être.
Mais ils n'ont pas rompu avec ça,
tous en même temps.
Ils n'ont pas rompu avec ça, le GUD a été dissous. Et par ailleurs, parce que si tu veux qu'on arrête de parler de l'histoire, moi j'ai pas de sujet. Parlons de l'actuel. Qui sont les modèles de Marine Le Pen aujourd'hui? Orban en Hongrie, Bolsonaro au Brésil, Trump aux États-Unis, Poutine en Russie. On parle de gens autocrates. Tu parlais de Pétain. Moi, je pense que ce qu'elle a de pétainiste aujourd'hui, c'est la négation totale de la démocratie. Pétain, on lui vote les pleins pouvoirs, c'est quoi? Plus de presse libre, plus de pouvoir au Parlement.
Mais qui lui vote les pleins pouvoirs?
Mais je ne te dis pas
d'accord,
le contraire.
Mais
quand tu regardes, mais c'est parce qu'elle a demandé, t'as suivi là récemment, le refus d'accréditation BFM parce qu'il n'aime pas la personne qui va suivre le RN. C'est ça, le refus de la presse libre.
On est très très loin de la censure des médias quand même.
On n'est pas du tout très loin de la censure des médias. Il refuse.
Dire que Sophie Binet, qui est secrétaire nationale de la CGT, a refusé de parler à CNews, par exemple. Donc tu vois ce que j'ai
à dire? Déjà, la CGT n'est pas un parti politique qui prétend gouverner la France. Mais ça n'est pas la même chose. BFM TV est une des chaînes, la chaîne sans doute la plus regardée, et dire je ne veux pas répondre et je ne veux pas accréditer BFM TV parce que je n'aime pas trop la personne que vous m'avez proposée, c'est le début de la censure. Si un jour ils sont au pouvoir, je suis d'accord avec toi,
mais ce ne sont pas les seuls. Et donc voilà, et quand la CGT fait ça.
Ça n'est pas un parti politique. Je l'ai dit sur ce plateau. Et deux, ça n'est pas un parti politique. Et ça, c'est vraiment important. Parce que qu'est-ce qui se passe quand les gens sont au pouvoir? On a Trump qui refuse de répondre aux questions du New York Times, du Washington Post, une fois qu'il est au pouvoir. Et ça, c'est très grave.
Mais elle n'est pas au pouvoir.
Il a été élu quand même, Bolsonaro. Hélas, ils ont été élus démocratiquement.
Mais après, dès qu'ils sont élus, c'est moins démocratique.
Enfin, elle fait 42%
de. On est avec Sébastien Chenu, c'est le député RN du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale. Bonjour Sébastien Chenu.
Bonjour madame.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous voyez, c'est un débat assez enflammé sur le plateau après les propos d'Elisabeth Borne hier qui compare qui dit que le RN est l'héritier de Pétain. Vous n'avez pas apprécié évidemment ces propos, Sébastien Chenu?
Non, j'ai entendu. Il faut dire aussi la faiblesse de l'argumentation là sur votre plateau entre le complotisme et les contre-vérités entre les nazis et Bolsonaro.
Bah ça, c'est votre avis.
Oui, c'est mon avis, mais je vous rappelle que tout ça relève de la plus grande fantaisie et du manque d'argumentation profonde sur ce que nous défendons. Évidemment, nous, on n'a pas apprécié ce qu'a dit Elisabeth Borne, parce que d'abord, mais je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit l'un de vos invités, Elisabeth Borne est totalement inculte quand elle dit que nous sommes les héritiers de Pétain. Je vous rappelle qu'effectivement, parmi les cofondateurs du Rassemblement, du Front National de l'époque, il y avait d'immenses résistants et des compagnons de la Libération.
Pas que, mais il y avait aussi cela,
et donc ce qui fait que évidemment, le Front National n'a jamais souhaité la réhabilitation de Pétain. Je rappelle également que
lorsqu'il y a eu les propos de Jean-Marie Le Pen quand même.
Oui, mais nous l'avons exclu. Il ne nous a pas échappé. C'est probablement la rupture la plus forte qu'on puisse faire, a exclu non seulement le dirigeant et le président qui était Jean-Marie Le Pen du Front National, mais qui était aussi accessoirement son père. Donc on ne peut pas faire de rupture, je crois, plus forte pour désavouer un certain nombre de prises de position qu'avait Jean-Marie Le Pen. Je rappelle également que lorsque Élisabeth Borne reçoit Marine Le Pen à Matignon, elle reçoit donc l'héritière de Pétain, c'est quand même particulier. Je rappelle que lorsque Élisabeth Borne dit...
Bah, elle est obligée de recevoir tous les chefs de parti.
Il faut savoir, parce que ou on est en démocratie et on reçoit effectivement les chefs de parti, ou alors on ne reçoit pas les héritiers de Pétain si on considère que c'est ainsi. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas très sincère. Et puis Élisabeth Borne a dit d'ailleurs elle-même que le RN était plus républicain que la France insoumise. Olivier Dussopt l'a dit aussi. Et je rappelle que le dernier qui a parlé de Pétain en bien... Emmanuel Macron, qui a rappelé ce qu'il pensait de Philippe Pétain, et visiblement, il en pensait plutôt du bien à un moment de sa vie. Donc, vous voyez...
Là, vous mélangez tout. Mais on peut reconnaître certains mérites au maréchal Pétain à un moment. Dénoncer ce qui s'est passé ensuite.
Je suis choqué par la déclaration du président de la République sur Pétain. Pétain est indéfendable, quel que soit l'axe par lequel on le prend.
Mais bien sûr que oui.
Moi, je pense que Pétain n'est pas défendable, mais bon.
Mais c'est mon avis. Bien sûr, et ne dites pas que Emmanuel Macron chante les louanges du maréchal Pétain.
Je veux dire que c'est de la com, en fait, leur truc. C'est de la communication, tout simplement, pour diaboliser le Rassemblement National, parce qu'ils ne réussissent pas à attaquer les idées que nous proposons, parce que tout simplement, lorsqu'ils ne les reprennent pas eux-mêmes, je pense par exemple à des idées sur l'immigration ou sur la politique familiale dernièrement, eh bien, ils n'ont aucune capacité à gérer le pays. Ils sont dans un désarroi total. Aujourd'hui, le pays est dans un sale état. Et les propositions que nous faisons, les élections dans lesquelles nous nous présentons devant les Français, eh bien, font que nous récupérons, je crois, une adhésion populaire massive. Et aujourd'hui, ils ne savent pas comment nous combattre sur le terrain des idées. Alors, ils nous diabolisent.
Bon, d'accord.
Ceci trouve ses limites assez rapidement.
Mais Sébastien Chenu, vous êtes bien d'accord qu'il y a quand même des membres encombrants dans votre parti. Mmh. Voilà, vous n'avez pas forcément fait le ménage. Il le rappelait, Rémi Barré, vous le rappelez sur le service de com, notamment du RN, où il y a des membres du GUD. Non, vous n'allez pas dire que votre service de sécurité est nickel.
Mais il ne faut pas dire n'importe quoi.
Ah bon, d'accord.
Alors, je vous dis les choses. Parmi les sociétés de communication que nous avons, il y a une société dont on a beaucoup parlé, puisque l'un de ses actionnaires, qui donc ce sont des sous-traitants avec qui nous avons une relation commerciale, est Frédéric Chatillon, qui est membre du GUD. Je vous dis aussi qu'une personne qui n'est pas beaucoup plus connue du grand public, mais qui fait aussi de la communication, qui s'appelle Anne Méo, qui a fait la communication de François Fillon, de grand patron, et je n'aurais pas la délicatesse. Bah si, elle était vice-présidente du GUD. Allez sur la fiche Wikipédia, et personne n'est en train de dire qu'Anne Méo est une dangereuse fasciste. Et pourtant, elle fait aujourd'hui la...
Non, mais c'est quand même particulier de travailler avec ces personnes-là. Particulier de travailler avec ce type de personnage.
Donc je vous dis que ça, c'est d'abord un procès d'intention. Et ensuite, nous avons une relation commerciale. Si ce monsieur qui a été au GUD veut faire de la politique, eh bien nous n'aurons plus de relations commerciales avec lui, parce que nous ne comptons pas nous faire parasiter par quelqu'un qui aujourd'hui...
Il n'y avait pas de société de communication, vous êtes tombé sur lui par hasard.
Écoutez,
je peux vous donner des adresses si vous voulez, plus recommandables.
Vous savez, c'est un peu comme les banques. Trouver des boîtes de com qui avaient voulu faire la communication du Rassemblement National jusqu'à il y a peu, c'était assez difficile, parce que le système dont vous êtes des membres, le système leur fait tellement peur en leur disant vous allez être les salauds qui allez faire de la com de Marine Le Pen, qu'évidemment, il se rétracte. Donc, effectivement, il a fallu trouver des gens qui acceptaient. Parmi eux, il y avait cette boîte avec des bons professionnels. Mais si dans cette boîte, ils veulent faire de la politique, eh bien, nous ne pourrons pas continuer à avoir une relation commerciale avec eux si, en tous les cas, ils nous parasitent par une action politique que nous n'admettons pas ou que nous désapprouvons.
Merci beaucoup, Sébastien Chenu, d'avoir été avec nous. Sébastien Chenu, député RN du Nord et vice-président de l'Assemblée nationale. On va terminer avec des messages, Rémi, et le résultat de notre sondage, rapidement.
Oui, allez, message de Mathieu qui nous dit « Salut, l'équipe, le RN fait peur aux autres partis car il est le seul parti à reconnaître les réalités de notre société », ce qu'on disait tout à l'heure.
Mais ça n'a rien à voir.
Les autres partis sont plombés, ont fait plonger le pays. Moi, je n'ai jamais voté pour le RN, je me suis jamais intéressé à ce que c'était, à ce qu'était le GUD, et je pense que c'est comme ça pour un certain nombre de Français qui, eux, votent pour le RN.
Ce qui leur fait mal, c'est que les anciens électeurs à gauche aujourd'hui votent Rassemblement National. Ça fait très mal à la gauche.
Sans forcément savoir effectivement tout ce que ça implique derrière. C'est important de le préciser.
Exactement. Élisabeth Borne va-t-elle trop loin ? C'était la question que nous vous posions sur le compte Twitter d'Estelle Midi, Rémi.
C'est oui pour 76% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
Une très très large majorité. Dans un instant, on parle de Gérald Darmanin qui va distribuer 5 millions de flyers pour éduquer les gens aux violences faites aux femmes. Est-ce que c'est ridicule ou salutaire? Dites tout ce que vous en pensez au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Midi 32 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et on est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, Perico Légas, avec Loumir Laprès et avec le petit nouveau dans la bande, c'est Valran Moulet-Berthaud qui est fondateur du Crayon Média, un site dédié aux 16-34 ans. On va tout de suite s'intéresser dans Estelle Midi à l'initiative du jour et c'est celle de Gérald Darmanin qui lance une grande opération pour la sécurité des femmes tout au long de l'été. 5 millions de flyers vont être distribués par des policiers et des gendarmes afin de sensibiliser Rémi, aux violences faites aux femmes, notamment lorsqu'on est témoin d'une agression.
Exactement, ces flyers donc seront distribués partout en France à partir de demain, lors des patrouilles de police ou de gendarmerie notamment. Objectif, rappeler à chacun et à chacune les gestes à avoir lorsqu'on est témoin ou victime d'une agression. Un QR code redirige vers le site masécurité.fr, un site du ministère de l'Intérieur, pour signaler des faits ou discuter avec des policiers et gendarmes 24 heures sur 24.
C'est-à-dire qu'il faut avoir le flyer lors d'une agression, quoi. Enfin, je sais pas si on va penser tous à scanner le QR code.
Ce qui est sûr, c'est qu'il explique également, ce flyer, les démarches à suivre si vous êtes une victime ou témoin d'une agression. Selon le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, rapport annuel, 9 femmes interrogées sur 10 affirment avoir anticipé les actes et les propos sexistes des hommes et adoptent des conduites d'évitement pour ne pas les subir. Ça concerne entre autres les faits de sortir ou de faire des activités seules. On y réfléchit avant. Comment s'organiser pour 55% des femmes interrogées? Ça te paraît, toi, une évidence puisque tu vit certainement, mais c'est vrai que je sais pas pour vous messieurs, mais ça paraît ahurissant comme chiffre. Ou de s'habiller comme elle le souhaite, 52% des femmes avant de sortir pour aller travailler ou pour sortir avec des amis ou autres réfléchissent avant à la tenue qu'il faut adopter pour cela. Par ailleurs, 8 femmes sur 10 ont peur de rentrer chez elles toute seule le soir.
Alors ces flyers distribués par Gérald Darmanin, enfin en tout cas par les policiers et les gendarmes, Valran Moulet-Berthaud, est-ce que c'est ridicule ou salutaire?
Moi j'ai vraiment sincèrement cru que c'était une blague au début. J'ai vu des mèmes tomber là-dessus et je croyais que c'était honnêtement une blague. Non, le site qu'il y a derrière, pour le coup, parce que j'ai creusé un petit peu, le site qu'il y a derrière est pour le coup sérieux et il est nécessaire. Il faut le saluer parce qu'on tape beaucoup sur le gouvernement, moi le premier. Faut saluer que pour le coup le site est assez clair, il y a pas mal de bonnes indications parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont mal renseignés sur la question. En revanche, le coup des flyers, on dirait un fast-food qui distribue dans la rue des codes de promo, quoi. Enfin, mais vraiment, c'est lunaire par rapport à ça. Surtout que le sujet, il est éminemment grave. Et il est d'autant plus grave qu'en plus, il grandit en difficulté au fur et à mesure qu'on est dans des classes de plus en plus populaires. Parce qu'il y a en plus énormément ce sujet de plus on est dans les centres-villes, des grandes villes, et on est plus ou moins protégé parce que c'est des quartiers plus safe, on va dire.
Dans le métro, on se sent moyennement.
Non, c'est faux ça.
Mais pour le coup, je trouve pour le coup qu'il y a vraiment un vrai problème là-dessus en France, qu'il faut s'attaquer à la racine. Et ça me rappelle ce nom, on a interviewé un policier qui s'appelle Alexandre Langlois, qui est un président de syndicat de police, et qui disait quelque chose que je trouvais extrêmement intéressant, notamment par rapport à cette loi Schiappa qui a eu justement sur le harcèlement de rue, c'est qu'en fait, il y a une énorme différence entre les politiques qui du coup font passer des lois en se disant si on fait passer cette loi-là, le problème sera résolu, c'est génial. Et absolument aucune concertation avec les agents de terrain, donc la police, sur savoir comment réellement, concrètement l'appliquer. Parce que le problème du harcèlement de rue, évidemment, je parle sous tout contrôle, c'est que, en fait, on se retrouve dans une situation où c'est très difficile de prendre quelqu'un sur le fait. Donc du coup, seulement on appelle la police pour dire j'ai été harcelé dans la rue. Du coup, en fait, la police, il n'y a pas de preuve, le mec s'est probablement barré. Et donc en fait... très difficile à résoudre.
Mais est-ce que ces flyers... Ah, c'est vrai que, après, je comprends ce que dit Valran, c'est-à-dire qu'effectivement, on a tous lu ça au début, on dit, mais attendez, flyers, mais c'est ridicule. Mais sauf que, est-ce que le fait qu'il y ait plein de flyers, que les gens vont quand même lire, alors ils vont peut-être le lire en diagonale, mais est-ce que ça crée pas quand même un climat, justement, propice à lutter contre les violences faites aux femmes? C'est-à-dire qu'en fait, des gens qui n'auraient pas, conscience de ce qu'était finalement une agression sexiste, ce que pouvaient subir les femmes, tout d'un coup vont lire ce flyer et vont être un peu sensibilisés, Loumir, si on doit trouver du bien là-dedans.
Alors, non, la seule...
Ah bon.
Ce qui aurait été bien, c'est un flyer à destination des hommes violents et sexistes. Parce que comme d'habitude...
C'est sous-entendu quand même.
Non, comme d'habitude, t'as lu le flyer, comme d'habitude, on parle aux victimes. Si tu as été... Alors, faites plutôt ci, faites plutôt ça, dirigez-vous. En fait, comme d'habitude, la responsabilité nous incombe. Or, quand on est victime de quelque chose, il y a un coupable, il y a quelqu'un qui nous harcèle, qui nous viole, qui nous agresse. Et eux, on ne leur parle jamais. Or, ça devrait être eux les cibles de la sensibilisation.
Mais tu c'est peux pas mettre un flyer en mettant ne violez pas.
Tu peux mettre un flyer qui explique.
Je vois très bien. Si tu es un violeur potentiel, prends bien garde, tu seras sévèrement sanctionné.
Ou, voilà ce que tu. Par exemple, faire un commentaire à une jeune fille, tu peux croire que c'est un compliment. Voilà ce que ça fait, voilà les chiffres, voilà ce que ton comportement peut créer chez une femme. Moi, ce que je trouve délirant, c'est qu'il y a des expertes féministes qui travaillent depuis des dizaines d'années sur le sujet. On a demandé 1 milliard d'euros contre les violences faites aux femmes, avec 3 destinations de ces fonds. 1, la formation des policiers. 2, l'augmentation des places d'hébergement d'urgence. Bon, c'est surtout à la base du volontariat pour le moment. Des places d'hébergement d'urgence. Et 3, de l'éducation à la sécurité affective et l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge. C'est seulement ça qui va pouvoir faire changer les comportements. Donc moi, il y a un moment, se faire un coup de com' sur le dos des femmes qui sont agressés, harcelés, violés chaque année, c'est gravissime. Surtout que le harcèlement de rue...
C'est un coup de com', ça ?
Oui, c'est un coup de com'. Distribuer des flyers en été, c'est un coup de com' parce que, encore une fois, s'ils voulaient vraiment faire quelque chose, on a les solutions, on les propose.
On n'a pas les moyens, tu le sais très bien.
Oui, mais ça, c'est un vrai problème. Pourquoi est-ce qu'on ne se donne pas les moyens ? Pourquoi est-ce qu'on décide que une femme qui meurt sous les coups de son mari tous les 2 jours et demi, ça n'est pas nécessaire d'avoir 1 milliard d'euros ? Alors que le CICE, je rappelle, c'est des milliards d'euros.
Oui,
de... C'est parce que déjà c'est encore en cours. Et par ailleurs, c'est parce qu'à un moment, on fait des choix politiques. Et faire un choix politique, c'est dire ça, c'est plus important que ça, parce qu'en fait, on a un budget contraint, donc on divise. C'est un gâteau. Donc moi, la perspective de savoir que dans mon pays, alors qu'il y a une femme qui meurt tous les 2 jours et demi, sous les coups de son mari, c'est moins important que de s'assurer que Amazon ne paye pas d'impôts. Ça me révolte. Ouais, si c'est ça,
Non, mais là, c'est caricature. Je comprends ton point de vue, et bien sûr que c'est suffisant.
Je prends les faits.
Mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'Amazon ne paye pas d'impôts.
Mais si, parce que c'est quand on fait des crédits d'impôts aux plus riches, en l'occurrence, c'est.
Oui, ça prend de l'argent. Oui, bon. Oui.
De l'argent qui pourrait aller à créer des places d'hébergement d'urgence pour des femmes qui sont violentées par leur mari.
Périgou, je vous sens très dubitatif par rapport aux propos de l'Union.
Oui, parce que je suppose que le ministère de l'Intérieur n'a pas lancé cette campagne sans avoir consulté des gens compétents et en communication et en sociologie.
Ça, c'est pas sûr.
Moi, je me dis.
Ça, pour le coup, c'est pas sûr.
Ils n'ont pas consulté les féministes, en tout cas.
Avant de choisir cette formule-là, ils en ont hésité entre 4 ou 5. Là où je rejoins ce que tu peux dire, effectivement, à qui s'adresser ? C'est pas bête de s'adresser à toute la population, parce qu'évidemment que celui qui est potentiellement un agresseur, il sait
que
tout le monde est prévenu, et que cette fois-ci, le gouvernement distribue des papiers, pas des messages que l'on voit, des papiers dans la main, défendez-vous, battez-vous, on est là, l'État est là. Et pourquoi ce flyer ? Je vais citer le cas de Jubica Elirel, ce journaliste du Figaro, qui un jour s'interpose. Un homme mettait la main aux fesses d'une voyageuse dans le métro. Le type s'en va. Il attend Jubica Elirel à un coin. Le massacre. Et c'est elle qui a sauvé. C'est l'agresseuse qui a sauvé. L'agressé a sauvé en se jetant sur lui. Pourquoi je cite cet exemple ? Le vrai problème, il est la passivité des gens qui sont témoins et qui ne font rien.
Non, le vrai problème, il est les gens qui agressent.
Oui, bah bien sûr.
Non, mais t'as raison.
Oui, mais les gens qui agressent, ça veut dire problème.
Alors, je vais prendre ma phrase du début parce que Loumire a besoin que je parle de bon français. Donc, quand les gens agressent, quand on est agressé, le problème, c'est ceux qui ne voient et qui ne font rien. Et c'est pour ça que l'exemple de ce journaliste du Figaro qui a été massacré, les gens regardaient la scène et ne faisaient rien.
Mais ça, c'est très
maintenant, grave. Peut-être que le fait de distribuer un flyer, ça va inciter les gens qui ne font rien à faire quelque chose parce qu'ils sont interpellés. Et qu'on voit bien qu'une agression d'une femme, ça concerne tout le monde. Demain, ça peut être ta femme et ta fille. Et peut-être qu'en se disant cela, des gens qui n'auraient pas osé bouger vont peut-être bouger. Mais la réalité, c'est la lâcheté, c'est la peur, c'est la crainte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des millions de témoignages me disent tous les jours des pieds sur les banquettes du train, je n'ose plus rien dire, je ne sais pas sur qui je vais tomber, je sais que j'ai me fait casser la gueule, personne ne bougera dans le compartiment.
Oui, mais ça c'est très grave. Mais ce que je voudrais aussi dire quand même sur le harcèlement de rue, c'est que c'est la partie émergée de l'iceberg. Les violences faites aux femmes, elles sont bien plus importantes que juste un mec qui dit, t'es bonne, donne-moi ton numéro dans
aussi,
la rue.
C'est d'accord.
Bien évidemment. Mais encore une fois, qu'est-ce qui est fait sur les inégalités salariales, le congé?
Il va pas distribuer des flyers là-dessus.
Alors, il n'est pas ministre des Finances et du Travail, il est ministre de la Sécurité.
Distribuer un flyer, parce que pour vraiment créer une société qui n'est pas sexiste et qui est profondément égalitaire, il faut élever des gens avec un mindset égalitaire.
Oui, mais ceux qui sont pas encore élevés,
pour de l'éducation affective et sexuelle qui n'est toujours pas financée.
Tu luttes aussi sur ce qui se passe aujourd'hui.
Lumière, il y a un sujet économique, ce que tu veux. Enfin, le féminisme, là, pour le coup, c'est l'angle du sujet de la sécurité. Et pour le coup, moi, je suis totalement d'accord avec Perico sur le fait que les agresseurs, globalement, il faut partir du postulat qu'ils existent. Et là, pour le coup, la réponse, elle doit être pénale et elle doit être judiciaire. Sur la question de quand ça arrive, c'est la question de l'héroïsme ordinaire. Et j'ai l'impression que c'est un sujet dont on parle plus du tout, alors que pourtant c'est probablement ce qui peut réellement réussir à inverser une population. C'est le fait de pousser les gens à agir. Parce que c'est vraiment en se contrôlant ou en s'aidant les uns les autres que vraiment tu résous ce genre de problème.
Ça semble.
Et toutes les femmes que je connais qui ont eu ce genre de problème m'ont toujours dit je suis choquée, je suis en pleine rue.
Personne ne fait rien. Alors on est avec Anthony qui nous appelle de Nevers dans la Nièvre. Bonjour Anthony.
Bonjour Estelle, Loumière, Perico et Valéran.
Alors, Rémi Barré aussi qui est là. Anthony, vous vouliez réagir sur ces flyers distribués par les policiers et les gendarmes tout l'été pour sensibiliser aux violences faites aux femmes. C'est une bonne initiative pour vous, Anthony ?
J'ai une petite question, Estelle, Loumière, oui. Les deux femmes qui sont sur le plateau. Ouais. Est-ce que vous pensez rassurée avec un flyer ?
Non. Non, je me sens pas rassurée, trop, hein. Mais voilà. Je me dis, Anthony, alors, je me sens pas rassurée. Non. Mais je trouve ça bien que les gens, en fait, si j'étais agressée, je me dis que j'aimerais que quelqu'un vienne à mon aide. Et peut-être que ce flyer, bien sûr, ce sera pas suffisant, mais peut-être que ce flyer fera que les gens, en fait, auront le bon geste au bon moment. Voilà.
Eh bien, moi, ça me dérange que de l'argent public soit gaspillé comme ça. Pour moi, ce qu'il faudrait, c'est une justice exemplaire. Que de ne pas donner envie aux agresseurs de refaire les erreurs qu'ils ont fait. Moi, je ne comprends pas qu'il y ait des personnes avec des casiers judiciaires longs comme le bras et qui se trimballent dans la rue sans problème. Moi, je comprends pas ça.
Voilà, c'est pas le flyer qui pourra effectivement faire
surtout,
quelque chose.
On peut pas interdire aux gens qui ont un casier judiciaire d'exister dans la rue. Mais je suis d'accord avec vous sur la justice. Il y a un vrai sujet de traitement des plaintes contre les violences faites aux femmes par la justice.
Trois quarts des dossiers se terminent sans
suite.
Exactement. Et Anthony, pour vous, tout simplement, c'est ridicule, quoi. Fallait pas le faire.
Complètement ridicule. Hein. Donner l'exemple par la justice, après, on verra.
Ben oui, mais là le problème, Anthony, c'est qu'il faut aussi sensibiliser. À un moment, c'est peut-être dissuasif et peut-être que les agresseurs vont se dire mince, la prochaine fois que je vais agresser une femme, il y aura certainement peut-être trois personnes qui vont venir sur moi et qui vont appeler la police et je vais être dérangée alors qu'aujourd'hui je peux le faire en toute impunité.
Sensibiliser, vous ne voyez pas que la population est devenue de plus en plus violente?
Ah bah si, je le vois, ouais. Bah, c'est pour ça qu'il faut faire quelque chose.
Oui, mais il y a un élément qu'on n'a pas évoqué depuis tout à l'heure, c'est 5 millions de flyers. Ils vont en grande partie être distribués par qui? Par des policiers et des gendarmes qui sont sur le terrain, qui sont en patrouille. C'est aussi un moyen de communication pour eux. C'est le gendarme qui est en patrouille, qui croise une jeune fille ou une femme et qui dit bonjour madame, comment allez-vous? Tenez. Je passe, vous l'avez déjà eu? Non, c'est un flyers, voilà. Et c'est d'entamer la discussion. Vous, est-ce que vous avez déjà été victime de quelque chose? Est-ce que vous vous sentez en danger? Est-ce que vous voulez en parler? Bah, regardez, il y a l'adresse là. Vous savez que vous pouvez nous joindre. C'est un moyen de communication pour les gendarmes aussi et pour les policiers.
Alors, on va terminer avec. Merci Anthony, en tout cas, d'avoir été avec nous. Voilà, Anthony qui trouvait ça ridicule, ces flyers. Est-ce que c'est le cas de nos auditeurs et de nos téléspectateurs qui ont voté sur le compte Twitter d'Estelle Midi, Rémi?
Guerre de doute, hein, quand même. C'est ridicule pour 81% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
Ça fait beaucoup. Perico Légas, dans un instant, Anthony Morel va venir et ça va vous intéresser, Perico. On va parler d'une révolution à l'heure du déjeuner, puisque bientôt on va pouvoir manger nos couverts. Voilà, à la fin du repas. Ouais. On vous explique ça dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 50, vous êtes sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi. Et midi 50, c'est l'heure d'accueillir Anthony Morel. C'est parti.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et aujourd'hui, avec vous, Anthony, on parle cuisine et déchets plastiques. On a trouvé une solution, en fait, pour réduire nos déchets plastiques, c'est de manger nos couverts.
Bah oui. Voilà, on n'y avait pas pensé.
Donc c'est pratique, cela dit.
On n'y avait pas pensé, mais enfin, avec les couverts en plastique, c'était pas forcément très, très pratique.
Non.
D'où l'intérêt
les couverts en inox, d'ailleurs. Certains ont essayé. Ils ont eu des problèmes.
Bon. Alors, on va tester ensemble, si vous voulez bien. Je vous ai apporté, en fait, une fourchette et une cuillère. Je vais vous donner la fourchette. Voilà, c'est une fourchette à croquer aux herbes de Provence et moi, j'ai la cuillère aux amandes. Voilà, très sympa. Bien sûr, vous pouvez l'ouvrir, c'est fait pour. Voilà, hop. Et en fait, vous allez vous retrouver avec un couvert qui ressemble à un couvert un peu comme les couverts en bois ou en bambou qu'on trouve beaucoup
pour
maintenant.
Pour les bébés aussi.
Oui, aussi, absolument, absolument. Sauf que vous pouvez croquer dedans, tout simplement. Ouais. Hop. Qui veut goûter?
Moi.
Chaud. Allez.
Mais... Ah oui, non, c'est bien.
C'est un goût de biscuit, en fait.
En fait, c'est un goût de biscuit. Ça a une texture de biscuit.
Non, je vais prendre la fourchette.
C'est quand même un biscuit un peu costaud. Hein.
Ah, c'est un biscuit sec. C'est un biscuit sec. Bah oui, parce qu'il faut que ça tienne, évidemment.
C'est pas mauvais, hein.
C'est pas mauvais, franchement. Ça se mange comme un biscuit sec.
Mais ça tient avec de l'eau. Je peux pas, par exemple, avec une. Je peux pas avec une cuillère manger une soupe.
Si,
forcément,
alors justement,
ça va
se dissoudre. Voilà. L'eau, la soupe, le café, ça tient. En fait, c'est fait pour. Ça a été conçu. Alors, il y a de l'innovation derrière. Ils ont fait 3 années
de
recherche.
Pas laisser 2 heures, je suppose, dedans.
Alors, voilà, exactement. Oui, t'as raison, Péric. En fait, c'est fait pour tenir.
Bien sûr, prenez le mange ma
fourchette. 8 minutes. Tenez, mangez ma fourchette. 8 minutes à 70 degrés. Après, ça commence à s'altérer un petit peu. Donc, on a le temps de boire un café qui est en général à 50, 60 degrés, oui, tranquillement, sans avoir de problème. Et évidemment, c'est le but. Alors, il y a aussi des couteaux. Je vous ai pas apporté le couteau. Avec un couteau, vous pouvez couper une pomme sans problème. Évidemment, pour une côte de bœuf, ça va pas le faire. Hein, c'est un peu comme les c'est pas fait pour non plus. C'est comme les couverts plastiques, les couverts à usage unique. Mmh. Sauf que là, l'avantage, bah, c'est qu'à la fin du repas, vous mangez en fait vos couverts littéralement. Et si vous avez plus faim, vous le jetez parce que c'est complètement biodégradable.
C'est un peu juste. Il y aurait pas l'assiette aussi.
Ouais, tu dis ça en rigolant, mais effectivement, ça existe aussi. Il y a eu d'autres. Alors là, c'est des Marseillais qui font ça. Ils s'appellent Kouvee, Kouvee. Mais vous avez aussi les assiettes et même des tasses. Donc pour le café, avec un petit goût chocolat. Donc vous buvez votre café et à la fin, vous avez le petit biscuit chocolat pour accompagner le café.
T'as pas l'air un peu crétin quand t'es sur un banc, je veux dire, au jardin de Luxembourg, à manger ton assiette.
Il avait vraiment faim.
Estelle,
c'est toujours le problème des early adopters, comme on dit, ceux qui adoptent les technologies en premier. Ouais. Ils ont l'air un peu crétins, mais dans 10 ans, quand tout le monde fera comme eux, ils diront j'étais le premier à le faire.
Quand ils vont se faire interner à Sainte-Anne, parce que les gens diront pas papa, regarde, monsieur, il mange une assiette.
Monsieur, arrêtez de manger vos couteaux, s'il vous plaît. Ouais, c'est un peu bizarre. Non, j'avoue, les premières fois, ça fait un petit peu bizarre.
Mais
ça coûte à peu près aussi cher que des couverts en bois ou en bambou qu'on trouve aujourd'hui beaucoup dans la restauration. Bah, vous savez, quand vous êtes dans la restauration rapide maintenant.
10 à 20 centimes.
Ouais, bah, c'est à peu près ça.
Ça vaut 10 à 20 centimes ce gâteau ?
Oui, c'est ça. Enfin, c'est à peu près c'est les prix qui sont pratiqués.
Et moins de déchets alors.
Pour les restaurateurs notamment. Alors, il n'y a plus du tout de déchets, donc c'est extrêmement intéressant. Et donc, pour remplacer les couverts plastiques qui sont interdits depuis quelques mois, notamment dans la restauration rapide.
Mais c'est génial parce que, en fait, les parents le disent aux enfants, finis ton assiette, on mange ton assiette.
Ouais, exactement.
T'as pas mangé ton assiette.
Moi, je trouve que je t'ai pas vu, ton couteau, tu le finis.
C'est un côté très satisfaisant en plus de finir un repas et de rien avoir en face de soi.
Donc, drame économique.
Il faudrait
pouvoir manger également. Économique pour les fabricants de lave-vaisselle qui sont ruinés, donc des emplois en moins.
Alors ça, c'est vrai.
Oui, en fait, tu manges pas encore ton plat. Tu vois ce que je veux dire?
Je sais pas si j'ai précisé, mais en plus, c'est aromatisé.
Pas encore le verre.
C'est aromatisé. Donc là, par exemple, c'est la cuillère aux amandes, donc pas mal avec une petite glace au chocolat, par exemple. Et vous, c'était quoi?
C'était fine zère avec un café, ça le fait pas.
Ouais, non, mais c'est sûr. Bah, en même temps, le café avec une fourchette, c'est moins bien aussi.
Ça dépend ce qu'on a. En tout cas, ça s'arrête pas au couvert, cette technologie. Anthony, il y a même des bouteilles qu'on peut avaler en même temps que l'eau.
Ça, j'adore. Génial, c'est génial et c'est aussi une innovation française, c'est extraordinaire. Alors c'est en fait des petites capsules qui contiennent de l'eau et en fait vous mettez la capsule dans la bouche, vous croquez et vous avalez l'eau et la membrane qui va avec. Puis en fait, c'est une membrane à base d'algues, en fait, donc complètement comestible.
Ah, ça fait longtemps, ça, hein, parce que sur les marathons, il y en a.
Et ben exactement. C'est ce que j'allais vous dire. En fait, c'est une start-up française qui fait ça. Et alors, le but, c'est effectivement de fournir, notamment au marathon de Londres, ils proposent ça depuis quelques années. Donc en gros, plutôt que d'avoir des dizaines de milliers de bouteilles plastiques pour les coureurs qu'on va jeter au bout de 3 gorgées, et ben on va donner ces capsules qui en plus sont hyper pratiques à prendre pour le coureur. On la prend sur la table, on l'avale, c'est hyper simple.
Partout, comme
exactement. Voilà. Pour les festivals aussi. Enfin, il y a plein de circonstances dans lesquelles ça peut être.
Avec de l'eau, je ne suis pas sûre.
Non, mais vous pouvez mettre de l'alcool dedans si vous voulez.
Ça va révolutionner le shot de vodka, c'est vraiment extraordinaire.
C'est ça, tu peux imaginer plein de trucs. Ils l'ont fait avec du whisky, de la bière, absolument tout ce que vous souhaitez. Il n'y a aucun souci de ce point de vue-là. Donc ça, c'est très très pratique, ça s'appelle OOHO.
Ah, c'est génial, bientôt on va partir en pique-nique avec une malle, on va revenir avec rien, parce qu'on aura mangé la malle, les assiettes, les couverts, c'est formidable. Merci beaucoup Anthony Morel, on vous retrouve bien sûr cette chronique en podcast sur rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Anthony Morel à toute heure du jour et de la nuit. Dans un instant, si vous êtes fumeur, vous allez peut-être apprécier cette initiative du ministre de la Santé qui voudrait faire rembourser les cigarettes électroniques. Bonne ou mauvaise idée, selon vous? On vous attend bien sûr au 32-16, à tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi.